Vous êtes sur RTL.
Jusqu'à 14h30, bonjour Tiffany.
Bonjour.
Votre sentiment ?
Non, on n'a pas déconfiné trop vite.
On va en parler évidemment dans une seconde après le rappel des titres avec Agnès.
Il ne devrait pas y avoir beaucoup de monde sur les routes en cette veille de vacances scolaires, en tout cas beaucoup moins que d'habitude. Seule la région Île-de-France est classée orange par bison futé. Lui ne devrait pas se déplacer pendant une semaine minimum. Emmanuel Macron toujours placé à l'isolement à la lanterne à Versailles. Le président de la République a été testé positif au coronavirus malgré des symptômes de la maladie. Il continue à gérer les affaires courantes. L'Espagne commencera à vacciner le 27 décembre prochain, premier jour de campagne européenne. C'est ce qu'annonce Madrid. À Valenciennes, comparution immédiate pour trois jeunes adultes cet après-midi. Ils sont poursuivis après l'agression de deux policiers ce week-end à Marly.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Merci Agnès. Moins d'une semaine de Noël, l'évolution de l'épidémie est préoccupante, déclare le directeur général de la santé Jérôme Salomon. Plus de 18 000 nouveaux cas de contamination par la Covid-19 ont été confirmés en 24 heures, à quelques jours des premières vaccinations. Santé publique France a annoncé ce jeudi ce chiffre qui nous fait peur. Et j'imagine, si vous nous écoutez avec cette question qui peut surprendre, a-t-on déconfiné trop vite ? Parce qu'il y a 15 jours, on se disait qu'il fallait peut-être déconfiner plus rapidement. Donc on oscille toujours, parce que la vérité c'est qu'on a beaucoup de mal à deviner cette épidémie. Tiffany est avec nous. Et vous êtes aide-soignante, Tiffany.
Tout à fait.
En réanimation à Pau.
Oui, exactement. Mais écoutez-moi, sur cet avis, je dirais qu'on a... C'est ni trop tôt, ni trop tard. C'est compliqué. C'est compliqué pour tout le monde. Alors, il y a beaucoup d'inquiétudes. La deuxième vague n'est pas finie, hein, puisqu'il y a toujours des entrées dans les hôpitaux pour des cas de Covid. Moi, je pense que les gens, ils ont aussi besoin d'espoir. Ils ont besoin aussi de vivre. On en a tous assez. On peut plus aller au resto, on peut plus faire du sport pour ceux qui ont besoin de faire du sport, qui sont pas forcément les lieux de contamination les plus gros. Après, les gens aussi ont besoin de passer Noël en famille. Moi, je l'entends tellement. Pourtant, je suis soignante. Je suis confrontée tous les jours au Covid. Mais je peux tellement comprendre. Après, voilà, il faut faire appel à la responsabilité de chacun. C'est-à-dire, si on a envie de passer Noël en famille, ben, pourquoi pas se faire tester tous avant pour être sûr d'être en sécurité, de passer Noël dans les meilleures conditions. Je pense que c'est... Voilà, on doit faire attention les uns aux autres. Mais après, il faut aussi qu'on vive, parce qu'on en a assez et que malheureusement, le Covid, il est là. Donc, confiné, pas confiné, le Covid, il est là. Et je pense que les mesures barrières, le masque, faire attention, c'est tout ce qu'il nous reste à faire, en fait. Voilà.
Non, mais j'entends ce que vous dites et moi, j'ai envie de croire surtout et même d'être en empathie avec ce que vous dites. En même temps, je connais la logique du gouvernement. Cette logique, c'est de serrer la vis lorsque les contaminations augmentent, puis les réanimations augmentent. Et la peur que j'ai, forcément, c'est, comme la stratégie choisie a été celle-là, c'est un troisième confinement qui arriverait. C'est ça qui fait peur.
Ah oui, mais même nous, je vais vous dire, depuis le mois de mars, on est fatigués. C'est pas facile. On sait très bien que derrière, il va y avoir les fêtes, qu'il y a le risque de troisième vague, mais comme je dis, la deuxième vague n'est pas finie. Oui, on a un risque de confinement, mais est-ce que c'est la bonne stratégie ? Je sais pas. Est-ce que chacun d'entre nous devons faire plus attention en se disant, on va voir notre famille, mais on se fait tester parce que les contaminations...
C'est difficile de faire plus attention qu'on ne fait, honnêtement, Tiffany. Moi, je suis frappé par la discipline et la résilience quand même des Français. Je vous assure, j'entends beaucoup de témoignages de gens qui ne vont pas passer Noël en famille, d'ailleurs, parfois qui vont rester à deux, à trois, qui sont en télétravail, qui font très attention toute la journée aux gestes barrières et au port du masque. Il y a un moment où la nature est aussi plus forte et elle est là. La nature est hélas, et on le voit bien d'ailleurs avec le président de la République, c'est quand même très difficile d'échapper à cette épidémie. Alors, Sébastien est avec nous, et Sébastien qui est cadre supérieur dans la santé, Sébastien ?
Oui, tout à fait. Voilà, je suis cadre supérieur de santé dans un établissement hospitalier dans les Hauts-de-Seine. Mmh. Donc, cadre supérieur de santé, c'est quoi ? Ben, je suis donc infirmier de formation, puis j'ai évolué dans la hiérarchie. Et là, je suis membre de l'équipe de direction des soins. Et donc, effectivement, je, par rapport à cette question, elle est très compliquée. À savoir que sur un plan théorique, épidémiologique et virologique, donc purement scientifique, c'est, je dirais oui, ce déconfinement, on peut pas le cacher, trop précoce, parce que les chiffres montrent que le virus circulait encore activement durant le confinement. Il y a eu effectivement un effet plateau des chiffres suite, on va dire, à une forte baisse qui s'était amorcée. En même temps, sur un plan sociétal, et là je rejoins Tiffany, la prise de décision ne peut pas tenir compte uniquement des données théoriques, elle doit aussi combiner des données théoriques et sociologiques. C'est-à-dire qu'à savoir le contexte économique qui était déjà compliqué avant la crise Covid, qui a catalysé les tensions sociétales, les fêtes de Noël, c'est un petit peu symbolique, on va dire. Elles pouvaient difficilement être confrontées à un confinement, enfin, à mon sens. Hein. Et puis la décision politique n'étant pas aisée, on va dire que le gouvernement a trouvé, on va dire, un compromis. Et ce compromis se traduit par cette décision du maintien du couvre-feu, de limiter les rassemblements, on va dire, à 6 personnes pour pouvoir fêter, on va dire, un temps soit peu Noël. Et que...
vous trouvez qu'on a déconfiné trop vite ?
Alors, peut-être pas déconfiné trop vite, disons qu'on a trouvé un compromis. Maintenant, sur un plan théorique, oui, ce déconfinement, là, aura des conséquences. Hein. C'est-à-dire qu'il y aura effectivement une accélération des contaminations et peut-être une traduction, on va dire, en termes d'hospitalisation conventionnelle et de réanimation. Oui.
Merci Sébastien de ce témoignage également. Vous êtes très nombreux nous attendons également vos appels pour que vous nous disiez ce que vous allez faire, puisque c'est jour de vacances aujourd'hui. Vous êtes déjà peut-être sur la route, d'ailleurs. Partez peut-être en Normandie, dans l'Ouest, dans le sud de la France, que sais-je. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et avec Laurent Tessier que je salue.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. A-t-on déconfiné trop vite ? Eh bien c'est non pour Jean-Marie. Il était indispensable de redonner un peu d'espoir et de morale à tout le monde. De toute façon, la gestion de cette pandémie a été mauvaise. Il était pour moi hors de question, écrit Patrick, encore de rester confiné pendant les fêtes de fin d'année. On a suffisamment fait d'efforts. Laissez-nous souffler quelques jours, retrouver nos proches. Le second confinement n'a pas servi à grand-chose pour Thierry sur nos réseaux sociaux. Vu le monde qu'il y avait à l'extérieur. Pour Sylvie, tout a été fait en dépit du bon sens. J'ai l'impression par moment d'être sur le Titanic et je ne comprends pas, réagit Daniel sur la page Facebook. Les chiffres de 4 contaminations sont mauvais. On a déconfiné trop vite, c'est la réalité. Et pour Sophie, on peut bien se passer de ce Noël 2020 pour être tranquille dans les mois à venir.
Non mais ce qui fait peur, et j'espère me tromper, c'est que là on est à 18 000 contaminations au jour. Si on continue d'augmenter, on sera le 25 décembre si on est au-delà de 25 000, de 30 000. On a 15 jours à tenir, en fait. 15 jours à tenir où toute la France est dehors. Toute la France est en vacances, toute la France n'est pas forcément à son domicile. Comment on va gérer cette période, sachant qu'on ne peut prendre aucune mesure ? Par définition, les gens sont en vacances, les gens sont dehors, c'est très difficile de dire rentrez chez vous.
Ça a été annoncé.
Donc, bien sûr. Donc, je ne sais pas comment cette période-là va se dérouler. Nous sommes avec Benjamin qui est pharmacien et qui est dans le Pas-de-Calais. Bonjour Benjamin.
Bonjour Pascal Pro.
Et merci d'être avec nous. Votre sentiment, vous qui êtes un professionnel de la santé.
Je vais un peu revenir sur ce qu'on dit Tiffany et l'auditeur d'avant. C'est vrai que par rapport aux chiffres, on peut penser que le déconfinement a peut-être été amené un petit peu trop tôt. Nous aussi, enfin en tant que pharmacien, nous on le voit à la pharmacie, l'augmentation du nombre de prises d'anxiolytiques, d'hypnotiques, parce que les gens ne peuvent plus réellement. Est problématique et que de toute façon enlever les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année aux Français, c'était vraiment compliqué quand le président monsieur Macron en fait était intervenu justement pour ordonnant les chiffres clés pour le déconfinement qui était prévu avec notamment cette barre des 5000 à laquelle on n'est jamais arrivé. C'est ce que je disais en fait au standardiste, c'est que bah, il s'est mis un peu une balle dans le pied par rapport à ça, parce que ouais, j'étais intervenu sur votre radio justement à ce moment-là en disant que je trouvais qu'on ne rappelait pas assez qu'il y avait des chiffres qui avaient été mis, mais dire aux gens bah écoutez, on n'est pas arrivé aux chiffres, on va pas faire Noël, je pense que psychologiquement ça aurait été une catastrophe pour les Français.
Je suis d'accord avec vous, mais le pharmacien que vous êtes, parce que ce chiffre de contamination il pose problème, parce que est-ce qu'il augmente parce qu'il y a de plus en plus de tests? Où est-ce qu'il augmente? Parce que en pourcentage, moi je voudrais d'ailleurs qu'on nous donne en pourcentage de la population, il y a plus de contaminés. Donc le pharmacien que vous êtes, est-ce que vous rencontrez plus de patients qui entrent dans votre pharmacie, je dirais depuis 10 jours, pour se faire soigner?
Sur la Covid, réellement non.
Bon, réellement, c'est assez rassurant, puisque alors ce n'est qu'une pharmacie,
oui,
certes, mais est-ce que avec vos collègues pharmaciens, vous avez le sentiment que nous restons dans un plateau?
Je pense que oui. Effectivement, il y a plus de tests qui sont faits, parce qu'il y a plus de professions qui ont été autorisées aussi à faire les tests hein, là, depuis une dizaine de jours.
C'est pour ça que ce chiffre, faut le mettre en perspective.
Non, je suis d'accord avec vous là-dessus. C'est vrai qu'on a des chiffres, mais on n'a pas exactement le. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir les chiffres, mais d'avoir le nombre de cas symptomatiques à part. Réellement, en fait.
Ouais, mais alors ça, c'est encore.
Et asymptomatique, c'est autre chose. Hein.
C'est difficile, ça. Moi,
c'est dans l'idéal, en fait. Il y a l'idéal et il y a ce qu'on peut faire, en fait. Ça, je suis
Le chiffre des réa, c'est intéressant parce que le chiffre des réa, il est ce matin à 2808. Donc, a priori, il est stable.
Oui.
Même si vous avez quand même, quand je dis qu'il est stable, il y a quand même plus 150 personnes en réa. Entre jeudi et vendredi, hein, quand je dis stable à la hausse.
Oui, après, faut pas oublier, alors peut-être pour rassurer un peu, qu'on est passé d'un moment où on était confiné, donc avec quand même pas mal de professions qui étaient chez eux, hein, malheureusement pour eux, personnes qui voulaient travailler et qui pouvaient pas, donc ils sont passés au travail, plus de boutiques ouvertes, les courses de Noël, tout ça a fait que le nombre de cas augmente, c'est un peu dans la normalité par rapport à ça. Je pense que pendant les vacances de Noël, les courses de Noël étant terminées, les gens auront tout prévu, ce qu'ils ont besoin, ils seront en famille, ils resteront en famille.
Mais oui, mais c'est là que. Oui, mais c'est en famille qu'on se contamine.
Oui, c'est en famille qu'on se contamine, mais les Français sont quand même. On regarde, même s'il y a toujours des cas à part, c'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on cite dans les médias. Et puis c'est normal pour alerter, pour dire aux gens de faire attention. Mais quand vous regardez, moi je le vois notamment à la pharmacie, même si bon, des fois on a des personnes, le masque en dessous du nez et tout, on leur rappelle ça, ou des gens qui arrivent, qui rentrent, et ah mince, j'ai oublié mon masque, on les voit ressortir et revenir automatiquement. Les gestes barrières. Les Français sont raisonnables, les Français respectent quand même, et ça on peut leur tirer notre chapeau.
Hein, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Les Français sont disciplinés.
Ça on peut. Et de toute façon, on est une espèce qui a besoin de lien social. Mmh. On peut pas tout nous retirer par rapport à ça. Le lien social, on en a besoin. Enlever les fêtes de Noël, c'est comme si on avait dit aux Français à la fin du premier confinement, bah vous partez pas en vacances. Pour être sûr en fait qu'il n'y ait pas de deuxième vague qui revienne, c'est la même chose. Les Français se rattachent à quelque chose pour pouvoir tenir. Et tout humain, c'est normal. On se dit, bah, ok, on va pas se voir entre amis, on va pas se voir dans la famille pendant tout le confinement, mais de toute façon, on pourra se voir à Noël. Et puis voilà. Donc on va faire attention. Et puis pour justement attendre cette date de Noël et faire en sorte que le virus il explose pas non plus et qu'il n'y ait pas trop de morts en fait dans notre pays.
Merci beaucoup, Benjamin. Merci. On continue évidemment de parler de ce sujet. On peut également évoquer Emmanuel Macron. On en a parlé hier. Est-ce que vous trouvez qu'il y avait une forme d'imprudence? On pourra parler de ce sujet sur l'étude de l'Institut Pasteur. Et on sera avec Mickaël, qui est un restaurateur. Et vraiment, ça va être intéressant de l'écouter. Et puis la proposition de la députée UDI du Nord, Valérie Six, qui propose que chaque personne vaccinée pourrait se rendre dans des lieux de culture, une sorte de passeport. Une fois qu'on est vacciné, on peut retrouver une vie normale. Et puis vous pouvez nous appeler sur tous les sujets, notamment ce que vous faites, pourquoi pas, pendant les vacances. Il est 13h19, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Aller dans les restaurants ou les bars augmente le risque d'attraper la Covid-19 et les repas en général jouent un rôle central dans les contaminations, selon une étude rendue publique aujourd'hui sur laquelle s'appuie le gouvernement pour justifier les fermetures. Mais il faut être prudent dans l'interprétation de ces résultats sur un sujet éminemment sensible, rapporte l'étude, puisque cette étude a été menée en octobre-novembre pendant le couvre-feu, puis le confinement, quand les établissements étaient partiellement, voire complètement fermés. Pour tout vous dire, je trouve ça, on est en absurdistan avec cette étude, me semble-t-il, sur ce sujet, sur le sujet des restaurants, pas sur les autres. Mais puisque les restaurants étaient fermés. Alors, Michael est restaurateur, précisément, c'est l'étude de M. Fontanet. Et j'ai entendu beaucoup de restaurateurs depuis hier. Bonjour Michael.
Oui, bonjour Pascal.
Et qui souligne effectivement qu'il y a quelque chose d'un peu absurde.
Oui, bonjour Pascal.
Bonjour.
Ça m'étonne un peu parce qu'on s'est eu la dernière fois et j'avais dit qu'il n'y a pas de sondage qui nous prouve un sondage. Et comme par hasard, il y a un sondage qui sort. Et, enfin, qui nous explique. En plus, ça s'est passé pendant le confinement lorsqu'on est fermé. Comment ils peuvent faire un sondage comme ça? Et je vous avais dit, qui nous prouve? Ah ben, ils nous prouvent par un sondage qui est complètement bidon.
Alors, ce n'est pas un sondage, c'est une étude, hein, d'ailleurs, mais bon.
Une étude, oui, une étude. Mais bon, cette étude est faite quand les restaurateurs sont fermés. Donc, il faudrait qu'ils nous expliquent comment ils font leur sondage. À moins qu'ils vont à l'Élysée quand ils font des dîners, qui normalement ils ne devraient pas le faire. Voilà, ça dépend où ils sont allés.
C'est très étrange, hein, et c'est l'explication du professeur Montanet. Il dit, il y a des bars et des restaurants qui sont restés ouverts de façon clandestine pendant le confinement. Alors évidemment, ces bars et restaurants ne respectent pas par définition le protocole. Ils partent de ces données dans ces bars et restaurants clandestins pour expliquer que les contaminations dans les restaurants seraient importantes. C'est très étrange, disons-le.
Bah, c'est restaurant clandestin, ça veut dire qu'il n'y a aucun protocole.
Oui, oui, tout à fait.
C'est déjà le départ. C'est quand on a entendu une maison qui avait fait une fête qui était d'une centaine. Ils ne respectent pas. C'est normal. Là, pendant les fêtes de Noël, les gens ne vont pas respecter à un moment donné les barrières. Les contaminations vont augmenter. C'est logique. Les restaurants seraient restés ouverts pendant les fêtes de Noël et le premier de l'an. Les barrières qu'on a mises en place étaient plus sécurisées que maintenant. Et ça, c'est certain que ça va augmenter. Ça va augmenter, mais faire des sondages comme ça, moi, je suis... c'est pour vraiment dire que la profession, en fin de compte, on a eu tort et que l'État, le gouvernement avait raison d'avoir fermé les restaurateurs et confondre restaurateurs et bars. C'est pas la même chose. Les bars, vous êtes plus proches. Les discothèques, c'est la même chose. Dans les restaurants, les barrières ont été mises en place. Le protocole a été respecté. On respectait tout le monde. Et voilà, c'est vraiment... Vous savez... C'est vraiment pour dire que ces professions-là, elles ont un risque plus qu'à nous autres. Surtout que ces sondages sont faits vraiment pour dire, ben voilà, on a raison, c'est le peuple qui a tort. Et ça a dégoûté vraiment tout le monde. C'est vrai que...
Alors c'est vrai que cette étude reconnaît aussi qu'il y a un souci, et c'est le professeur Fontanet, je le cite encore, hein, entre guillemets. Il est donc difficile de savoir quelle est la part réelle des restaurants et des bars dans la transmission du virus, puisque cette période ne correspondait pas à leur fonctionnement normal. Enfin, je vous assure, quand tu lis ça, t'as envie de tomber de ta chaise quand même. Faire une étude sur une période où bars et restaurants sont fermés pour conclure qu'il y a peut-être contamination dans ces bars et restaurants à partir de données de bars et restaurants clandestins, je trouve que c'est quand même étrange.
Mais voilà, ils voulaient un sondage, comme je vous avais dit la dernière fois, qui nous prouve, et ben ils prouvent encore, mais tout en trichant. Pour moi, c'est pas valable. C'est pas valable. Une étude comme ça, il aurait fallu. Voilà. Je pense qu'il faut que ce soit des sociétés privées, pour vraiment qu'ils fassent des études, parce qu'on voit bien une étude comme ça qui est faite. Elle est basée sur quoi? Sur des clandestins, les gens qui ne respectent pas la loi. Donc, à partir de là, vous ne pouvez pas faire une estimation.
Sinon, vous êtes où, vous, Michael?
Paris 8e. Paris 8e.
Bon, et dans quel. Vous arrivez à faire du click and collect, comme on dit?
Non, j'ai expliqué la dernière fois. Je suis dans un quartier d'affaires.
Ah oui, vous m'aviez expliqué. Vous êtes du déjeuner, vous faites de la nourriture rapide.
Voilà, exactement.
Je me souviens de notre échange, effectivement.
Voilà, donc moi, ça ne marche pas et ça ne marchera pas, de toute façon.
Donc comment vous faites? Vous avez des aides?
Bah écoutez, on a eu droit à l'aide par rapport les 10 000 euros. Et d'ailleurs, je vais passer un petit message, parce que je me suis trompé quand j'ai fait ma déclaration. Et on critique beaucoup les fonctionnaires, et j'ai un fonctionnaire de direction régionale des finances publiques. a rectifié mon erreur. Je n'ai plus l'avoir au téléphone. Il me l'a réglé en deux temps. Et franchement, je le félicite. C'est vrai qu'on critique toujours les fonctionnaires, mais en tout cas, celui-là, il a fait son travail correctement. Je veux vraiment le féliciter.
C'est pas tant les fonctionnaires qu'on critique, c'est l'administration, pour tout vous dire.
Oui,
parce
mais
que parfois,
un
c'est
directeur, voilà. Il a réglé mon problème. Ouais.
C'est jamais les gens, en fait, mais c'est c'est parfois un enfer kafkaïen. Mais les gens, ils sont parfois même eux-mêmes broyés par le système.
Bah, c'est ce qu'ils m'expliquaient. Ça change tout le temps. Et ils savent pas où danser. Voilà, ils vont à un tâton. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Mais bon, pour revenir pour les restaurateurs, encore un sondage qui reflète vraiment pas la réalité. Donc on verra bien de toute façon.
Merci Mickaël de ce témoignage.
Et c'est moi qui remercie la
Et
radio,
puis bon courage à vous. Hein.
Merci.
Bon courage à vous et effectivement, donnez-nous régulièrement de ces nouvelles et notamment des aides parce que ça c'est important que vous soyez aidés dans cette période très compliquée. Il est 13h27, Laurent Tessier.
Vous pourrez continuer de réagir dans quelques instants à l'actualité concernant Emmanuel Macron testé positif au Covid-19. 7 jours d'isolement pour chef de l'État et le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, s'est exprimé sur le sujet hier soir.
C'est un exemple comme pour tous les Français, c'est-à-dire qu'il s'est isolé au moindre symptôme, et c'est exactement ce que nous disons à l'ensemble des Français. Il a fait un test au moindre doute, c'est ce que nous souhaitons aussi. Le tracing est en place et il est un fervent supporter de l'application Tous Anti-Covid.
Êtes-vous gêné aussi par ce dîner de travail organisé mercredi soir à l'Élysée avec les ténors de La République En Marche et du Bonhomme ? Peut-on parler d'imprudence ? 32-10. Faut-il instaurer un passeport vert pour les personnes vaccinées ? C'est la proposition de la députée UDI du Nord, Valérie Six.
Nous pourrions aussi prendre exemple sur l'Israël qui octroie à chaque personne vaccinée un passeport vert, leur permettant de se rendre dans des lieux de culture, au restaurant, en définitive de retrouver une vie normale.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce une obligation de vaccination déguisée ? 3210, 3210, nous attendons tous vos appels au standard.
Merci Laurent. Une page de pub. Hier, on avait zappé le moment de Noël parce qu'on était dans une actualité forte. Mais aujourd'hui, nous retrouvons ce moment de Noël. On va retrouver l'auditeur de Noël, la chanson de Noël
et le cadeau !
Ou l'est !
Ah oui, Damien Béchiou a trois cadeaux aujourd'hui, c'est
deux,
ça.
Deux Pascal.
Mais hier, il y en avait trois.
Oui, mais on était mercredi, c'était la journée des enfants.
Hier, c'était mercredi pour vous.
Avant-hier, parce que j'étais là avant-hier.
Fake news. D'accord, parce que hier, c'était jeudi, ami.
Oui,
et il est où, Greg
Caranoni ?
Il est déjà parti en vacances ?
Comment ?
Il est en vacances, monsieur Caranoni ?
Non, il revient lundi.
Il revient lundi. Eh bien, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
RTL Midi.
La musique de Noël. Il reste, nous sommes le 18 aujourd'hui, donc dans une semaine, c'est précisément Noël. On sera là le 24 décembre avec Laurent Tessier. C'est une émission qu'on aime bien faire le 24 décembre. On fera un spécial Noël et pour le moment, nous sommes avec Cédric, puisque l'idée, c'est de nous raconter un Noël qui vous a marqué. Bonjour Cédric.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Quel Noël vous a marqué ?
Moi, le Noël qui m'a marqué, c'est plutôt plusieurs Noëls. En fait, c'était quand j'étais enfant, en fait, quand j'avais 5-6 ans, et qu'en fait, le 25, quand on faisait le repas en famille, j'étais avec mes grands-parents, et la famille, donc ma tante, et donc mes parents, bien sûr, ma sœur. Et que du coup, on se réunissait, il y avait toute la famille, et puis surtout, souvent, en tout cas, il neigeait le jour de Noël. C'était pas rare qu'il neigeait le jour de Noël. Et donc, je m'en rappelle très bien, on se réunissait, et avec ma sœur, on se déguisait, et puis on faisait un petit spectacle, juste dans l'apéro, à l'apéro, quoi. On faisait un petit spectacle, on dansait, on faisait un peu les fous, quoi. Hein. Et donc ça, c'est des très bons souvenirs. Et puis, à l'époque, c'était encore des cadeaux un peu différents de maintenant aussi. Et puis, il y avait moins de cadeaux aussi. Et moi, je me rappelle, j'avais eu un Big Jim. Hein, donc, c'est un peu l'équivalent.
Mais je me souviens, ça, Big Jim, bien sûr.
Vous rappelez ?
Bien sûr, donc, bien sûr. Big Jim, c'était une petite, pas une petite poupée, mais voilà, c'était...
Pour garçon, quoi.
Une poupée
voilà.
Pour garçon, vous avez raison.
Voilà, j'avais reçu un Big Jim et je m'en rappelle très bien et c'est des super souvenirs parce que entre guillemets, la magie de Noël, c'est souvent afférent à l'enfance Et donc, moi, à l'époque, j'avais ben, mes quatre grands-parents qui étaient encore là. Mmh. Et donc, j'ai des bons souvenirs des 25 décembre, en tout cas, en famille. Et c'est différent maintenant, parce que ben, mes grands-parents ne sont plus là. Ben, j'ai encore ma grand-mère, mais c'est différent maintenant. Donc, moi, j'ai des très bons souvenirs de ces Noëls-là, où il y avait la neige. Et finalement... Il neigeait souvent le 25 décembre, dans décembre, et c'était en Moselle. Donc, moi, j'habite en Moselle, et c'était pas rare qu'il se mette à neiger le 25 décembre.
Vous avez quel âge, Cédric ?
J'ai 43 ans. Donc, maintenant, la neige, on la voit plus trop.
Et c'est vrai, on a le sentiment qu'il faisait un peu plus froid, mais est-ce une réalité ou pas ? Mais là où vous avez raison, c'est que chaque année à Noël, on part très loin, parce qu'on part en enfance. Voilà. Et qu'effectivement, autour de la table, il y a des vivants, mais il y a aussi des fantômes. Parce que quand on a 43 ans comme vous, forcément, entre l'enfance et aujourd'hui, il y a des gens qui ont disparu. Et que c'est une étape Noël, et que le soir de Noël, évidemment, on pense à ceux qui ne sont plus là.
Exactement. Donc c'est pour ça, c'est des bons souvenirs. Et même que maintenant, j'ai des enfants, c'est différent, parce que nous, on a un âge où j'adore toujours la période de Noël, mais l'enfance est quand même rattachée à Noël. Moi, mes enfants, je pense qu'ils sont encore attachés à Noël, surtout le plus jeune, mais parce qu'ils sont encore dans l'enfance et ils croient encore au Père Noël. Donc, nous, on croit encore au Père Noël, mais c'est plus le même Père Noël, quoi.
Est-ce qu'on croit encore au Père Noël ? Ça, c'est une bonne question. Hier soir, j'ai écouté Bonus Track, c'est formidable, Bonus Track, avec Éric Jean-Jean, et il y avait beaucoup de chants de Noël hier soir, et là, et notamment de chants de Noël américains. Et là, vous avez chanté, vous avez choisi une chanson américaine, Cédric.
Oui, moi j'adore la chanson White Christmas, donc de Frank Sinatra.
Eh bien, on va écouter.
Ça symbolise vraiment l'esprit de Noël.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and chill.
Indépassable, indépassable Sinatra. On n'a jamais l'impression d'ailleurs qu'il chante Sinatra, il parle. Et c'est vrai que Sinatra symbolise forcément Noël. Alors Cédric, vous avez gagné un cadeau, et même plusieurs peut-être.
Deux cadeaux aujourd'hui, Pascal.
Damien.
Alors Cédric, vous avez gagné un kit de cosmétiques bio de la marque Mademoiselle Agathe. Donc c'est un kit issu de l'hélicithérapie. Donc c'est fait à base de bave d'escargot. Mais c'est très bon pour la peau, ça répare, ça hydrate. Oui, c'est 100% naturel, Pascal.
Fichtre.
Oui, mais ce n'est pas directement un escargot, ne vous inquiétez pas. Donc ça répare, ça hydrate, ça purifie, ça protège la peau. C'est parfait pour cette période hivernale. Et en plus de ça...
À l'occasion des fêtes de Noël qui approchent, RTL offre à tous les auditeurs qui passent à l'antenne cette semaine un lot de chocolat Jeff de Bruges. Chaque lot contient les meilleures recettes gourmandes Jeff de Bruges.
Et voilà pour vous, Cédric.
Cédric, vous faites quoi à Noël, le soir de Noël ?
Eh bien, le soir de Noël, on va fêter gentiment, en famille, que entre nous, dans notre simple foyer. D'habitude, on va en Belgique, chez mes beaux-parents. Mais bon, avec le Covid, là, c'est compliqué. Donc, on fera un apéro FaceTime avec mes beaux-parents. Et donc, on va rester a priori à la maison, donc avec mes enfants. Et du coup, le 25, on va quand même chez mes parents. Mais on sera en petit comité. Hein.
Ben merci. Moi, je suis très frappé de tous les auditeurs depuis une dizaine de jours. Je pose très souvent la question, qu'est-ce que vous faites le soir de Noël ? c'est un Noël qui ressemblera à aucun autre. C'est très rare que les gens nous disent on sera 10, 15, c'est parfois arrivé, hein. Mais globalement, à 80 ou 90%, les gens vont être à 4, à 6, à 8 peut-être. Mais c'est un Noël extrêmement restreint et comme chez vous, Cédric, sur le foyer, sur le noyau dur de la famille, en l'occurrence, vous et vos enfants, si j'ai bien compris.
Oui.
Merci Cédric, vraiment merci. Merci. Et merci de votre beaucoup. Témoignage et merci de votre émotion. À tout de suite.
Ça va, merci, au revoir.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Le passeport vert, voici une initiative intéressante. Les députés de l'UDI proposent un passeport vert pour les personnes vaccinées. Pour la députée Valérie Six, cette mesure permettrait d'inciter les Français à se faire vacciner pour retrouver au plus vite une vie normale. Alors nous sommes avec Christine qui habite Cherbourg. Que pensez-vous Que pensez-vous de cette initiative? D'ailleurs, Valérie Six a dit ceci, nous pourrions prendre exemple sur Israël qui octroie à chaque personne vaccinée un passeport vert leur permettant de se rendre dans les lieux de culture, au restaurant, en définitive de retrouver une vie normale, et c'est ce qu'elle a dit à l'Assemblée nationale.
Oui, mais écoutez, je trouve que c'est une idée tout à fait sensée. Parce que bon, on est tous effectivement en train de traverser une situation très très grave au niveau sanitaire, mais aussi économique, social. Et ce serait pas mal, puisque le vaccin, on ne peut pas le rendre obligatoire, ça paraît difficile, au moins avantager ceux qui se font vacciner. Ça responsabiliserait, parce que quand même, le fait d'être vacciné, bon, une fois qu'on sera bien sûr que le vaccin n'est pas dangereux, ce qui semble être le cas. Hein. On se ferait vacciner déjà pour nous-mêmes, pour notre entourage, nos familles, pour la France, pour l'humanité finalement. Faut être altruiste, hein, faut pas être égoïste. Et ça permettrait de pouvoir plus facilement prendre tous les transports aériens, les trains, les autocars de longue distance, les croisières qui sont véritablement là un cluster grave, ça a bloqué toute l'économie des croisières, les voyages à l'étranger bien évidemment, et on pourrait élargir cela également pour tout ce qui est concerts, les très très grands concerts dans les salles, par exemple, toutes les concentrations, finalement, de personnes. Hein.
Les endroits même où il y a si on ne sait pas si le vaccin, et c'est ça qui pose problème quand même, on sait qu'il peut immuniser, mais on ne sait pas si vous pouvez transmettre ou pas la maladie. Donc vous êtes vacciné, donc vous ne pouvez pas la recevoir, mais peut-être pouvez-vous la transmettre, je vous le rappelle.
Oui, mais je pense que c'est...
Ce qui pose un petit souci quand même.
Oui, quand même.
Mais faudrait qu'on ait des précisions là-dessus.
La science, elle progresse. Je pense que de jour en jour, on en apprend tous les jours. Hein. Je crois que les scientifiques qui sont vraiment tous là-dessus, je pense que d'ici peut-être une semaine ou 15 jours, on en saura encore plus.
Ah, bon, je l'espère, mais c'est pas gagné.
Non, c'est sûr. Mais je pense quand même que ça pourrait responsabiliser. Et déjà, le fait de ne pas l'attraper, à mon avis, enfin, je ne suis pas scientifique, mais je pense que le fait déjà de ne pas l'attraper protégerait quand même aussi les autres personnes alentour, moi je pense. Hein. Alors, on pourrait peut-être un tout petit peu l'élargir aussi aux autres grandes salles, peut-être les salles de sport quand même, où on transpire beaucoup, on respire fort, des choses comme ça. Alors après, les restaurants, si je pense que là, peut-être qu'on pourrait un peu réfléchir, parce que bon, si les restaurants sont bien aérés, si toutes les consignes sont bien... Enfin, les distances sont bien respectées, peut-être pas trop forcées non plus, hein, faut pas trop...
Bon, Christine, en tout cas, vous êtes plutôt pour, mais il se trouve que Irène, qui habite Lyon, est plutôt contre. Bonjour Irène.
Oui, bonjour.
Vous venez d'écouter Christine.
Merci. Oui, je viens d'écouter Christine, enfin, en une partie. Bon, écoutez, moi, j'étais très choquée, en fait, pour dire scandalisée par ce message de cette personne. Je pense qu'en fait, du coup, il faudrait peut-être revoir un petit peu l'histoire. Donc, une carte verte, on peut nous mettre une étoile verte aussi sur les habits, comme ça, on pourra rentrer sans difficulté dans les musées, etc. Elle est où, la liberté? Parce que là, je pense qu'on prend un chemin qui est quand même gravissime. C'est-à-dire qu'on va cataloguer et on va faire une ségrégation des gens vaccinés, des gens non vaccinés. L'obligation de la grippe n'existe pas. je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on a une obligation sur le Covid.
Bah, vous savez, c'est ce qui se passe quand vous allez en Espagne ou en Belgique. Il faut vous faire faut un test PCR. Hein. Non, la liberté, vous ne pouvez pas entrer dans un pays aujourd'hui n'importe comment.
J'ai bien compris, M. Pro, que Pascal, le test PCR, moi, il n'y a aucun souci, je le fais pour le prendre. La vaccination, c'est autre chose. Moi, il est hors question que je me fasse vacciner contre ce vaccin. D'abord, je ne suis pas une pro-vaccin. Donc, je connais les vaccins qui sont utiles. Le jour où on enlèvera l'aluminium dans tous les vaccins, tout ira mieux. Mais ça, c'est un autre débat. Moi, maintenant, il y a des scientifiques qui sont pas pour, parce que on n'a pas de recul en fait hein, sur ce genre de vaccin avec cet ARN messager. Je veux dire, on a fait ça sur des animaux. On ne sait pas encore où on en est. Je veux dire qu'à un moment donné, il faudrait prendre du recul. Le problème, c'est que là, il y a beaucoup de scientifiques qui jouent aux apprentis sorciers comme ça a eu existé. Je ne sais plus quel est le chercheur. C'est Einstein, mais je crois pas que c'est Einstein qui avait dit le jour où j'ai découvert la bombe atomique, j'aurais mieux fait de m'en abstenir pour savoir à quoi ça allait servir. Je veux dire qu'à un moment donné, dans notre pays, enfin sur cette terre, je trouve que les scientifiques ont de moins en moins d'humilité. Ceux qui ont d'humilité, on les met au rancard. On leur dit que ce sont des charlatans. Moi, j'essaie de me fier à des médecins. Je travaille avec un laboratoire sur Lyon, dont je ne donnerai pas le nom, mais qui lui-même dit qu'effectivement, le vaccin ARN messager n'est pas mauvais en soi-même, sauf qu'il n'y a toujours pas le recul de plusieurs années. Voilà.
Non, mais vous avez parfaitement raison. Et le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on fait aucun vaccin ?
Alors, non.
C'est ça la difficulté. Moi, j'entends ce que vous dites. Il n'y a pas de recul, il n'y en aura jamais. Mais qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, juste, je vais vous dire une chose. Laissons attendre les autres vaccins, qui sont des vaccins d'origine ancienne, comme celui de Pasteur qui va sortir. Il faut lui laisser le temps de le faire.
Celui-là, vous êtes moins réticent.
Je serais moins réticente pour celui-ci, malgré que je ne me suis jamais fait vacciner contre la grippe et je n'ai jamais été malade. Je touche ma tête, hein, voilà, je ne suis pas malade. Donc, je veux dire que du coup, chaque individu a des anticorps qui leur sont spécifiques et qu'il ne faut pas non plus tout mélanger. Moi, je n'aime pas les apprentis sorciers. Je travaille avec la recherche et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de pondération quand même de la part de certains chercheurs.
Ben, merci, voilà, Irène, de votre témoignage. Restez quand même quelques secondes avec nous parce qu'on pourra peut-être continuer ce dialogue. Il est 13h48, il y a beaucoup de méfiance hein, sur les vaccins, on le sait bien. Je ne suis pas sûr que la majorité des Français aient envie de se faire vacciner. C'est aussi au gouvernement, sans doute, de convaincre, d'avoir une campagne de sensibilisation, forcément, et d'avoir un message peut-être clair aussi durant cette période. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
C'est intéressant cette affaire de passeport vert, parce qu'on peut imaginer que c'est une solution quand même intéressante, pragmatique, mais en même temps elle heurte effectivement une liberté, parce que vous avez le droit de ne pas vous faire vacciner. Donc nous sommes avec Mélanie, qui est factrice en Corrèze. Bonjour Mélanie.
Bonjour Pascal, vous allez bien ?
Et vous ?
Bah écoutez, super.
Bon, et comment ça se passe la tournée du facteur en ce moment ?
En ce moment, c'est génial, c'est le Père Noël.
C'est-à-dire ?
C'est à fond, on a plein de colis, quoi.
Ah bon ?
Oui. Ah là, c'est jusqu'au 24, il va falloir carburer pour livrer tout le Père Noël pour tout le monde.
Mais je crois que vous avez eu au téléphone, vous êtes en voiture, hein,
oui,
vous n'êtes pas
exactement.
En...
exactement, voilà, oui, moi je suis en campagne.
En campagne, donc vous allez voir. Et vous trouvez que les uns et les autres ont le moral ?
Là, Noël arrive, ça vient parce que justement les gens vont recevoir leur famille. Donc oui, puis quand vous distribuez les colis, on sait que c'est les cadeaux, donc oui, là ça fait du bien, ça fait du bien au moral, ouais.
Bon, le passeport vert, vous en pensez quoi ?
Moi, je suis pour, entièrement pour, mais moi j'irai plus loin encore. Imaginons, moi j'ai un café, et ben je voudrais un fichier où les personnes soient fichées en fait. Il y a juste à taper le nom. Ah ben voilà, monsieur, madame, ils sont vaccinés. Je peux bien les recevoir dans mon restaurant. Après, et puis être fiché aussi, ben, c'est peut-être extrême. Hein. C'est vrai que c'est quand même extrême, mais bon, aujourd'hui on est fiché de partout pour voyager à travers le monde entier.
C'est-à-dire que c'est toujours marrant d'ailleurs quand on dit on est fiché. Oui, on l'est de toute façon. C'est-à-dire
oui,
que pour partir à l'étranger, il faut un passeport.
Voilà.
Donc ça m'amuse toujours, moi, ces débats-là, parce que la liberté, elle existe assez. Elle est contrôlée. on ne peut pas rouler à n'importe quelle vitesse. Il y a plein de choses dans la journée c'est où ça. Notre liberté est entravée. Mais elle est entravée, j'ai envie de dire, pour des bonnes raisons. Elle est entravée parce qu'on vit en société. On ne peut pas faire ce qu'on veut, comme on veut, au moment où on veut.
Et bien voilà, alors que là, ça serait exactement la même chose. Et bien, grâce à ce vaccin, voire même s'il faut attendre peut-être encore un petit peu, comme disait la dame, peut-être ceux-là ne sont pas encore super fiables. Il faut peut-être attendre encore un an. Mais s'il nous permet de faire comme on faisait avant... Mais pourquoi pas ? Et encore mieux.
Oui, mais si vous n'avez pas envie de vous faire vacciner, c'est là quand même que se pose le problème, cette liberté.
Ah bah vous serez coincé.
Bah oui, donc c'est...
Vous serez coincé. Bah oui, mais après, c'est aussi une responsabilité. C'est, d'accord, vous ne faites pas vacciner, ok, mais vous pouvez choper la maladie, mais surtout la transmettre. Que nous, on peut peut-être l'avoir moindre. Donc ça fait comme la grippe aussi, hein. Pour l'instant, on est vacciné, mais on peut l'avoir quand même, si je crois bien. Ça, mais peut-être moins fort. C'est pas encore non plus des vaccins 100% fiables. On ne sait pas encore avec le recul non plus. Mais,
oui, mais il n'y a pas 252 vaccins non plus.
Non, pour l'instant non, mais peut-être qu'il y en aura un plus puissant que d'autres, ou je ne sais quoi, mais... Mais pour l'instant, si si ça nous permet de avoir une activité économique et sociale, faut foncer, faut y aller. Aujourd'hui, faut vivre, hein, il faut y aller parce que cette année, elle était vraiment très dure. C'est très très dur.
Bon, écoutez, Mélanie, vous avez pensé vous à vos cadeaux de Noël ? Qu'est-ce que vous allez offrir ? Peut-être un cadeau pour le salon, pour la cuisine, pour la chambre ? Pourquoi pas ?
Pour la maison. Moi, là, pour la maison. Oui, moi, je vais refaire mes fenêtres. Alors, vous voyez.
C'est pas vrai.
oui, mais c'est un cadeau. C'est un beau cadeau, quand même.
Mais comment vous allez refaire vos fenêtres ? Écoutez, c'est bien. Vous habitez dans une maison.
Exactement. Ouais,
ça, vous avez
la
chance. Vous avez une grande maison ?
Je peux dire que oui. J'ai une maison. Elle est raisonnable. C'est pas non plus un château, mais c'est une maison avec un jardin. Ma sœur, vous voyez, arrive de Paris demain. Elle vit dans 30 mètres carrés.
Mais
voilà,
bien sûr,
donc,
c'est ce que j'allais vous dire. Vous seriez surpris parfois les gens, les conditions dans lesquelles ils vivent à Paris, et même des gens que vous imaginez être très aisés, etc. Et vous les retrouvez, forcément, c'est tellement cher à Paris que pour déjà avoir 100 mètres carrés à Paris, faut gagner un appartement dans Paris. Je sais pas, ça vaut 12, 13 ou 14 000 euros le mètre carré minimum,
c'est
d'ailleurs,
ça,
aujourd'hui.
Oui.
Donc,
alors
vous imaginez l'argent qu'il faut pour avoir un appartement à Paris. Et je sais pas dans quelle ville vous habitez, Mélanie, mais je pense que vous vivez beaucoup mieux que beaucoup de Parisiens, croyez-moi.
Alors, beaucoup mieux, il y a des inconvénients aussi, hein. Attention. On est loin de tout. Nous n'avons pas les commerces de proximité. Enfin, vous voyez, moi, j'ai la chance d'en avoir, mais j'ai pas tout non plus à côté. Mais bon, sinon, c'est quand même... Non, non. On a bon vivre. Je vois les montagnes de... Là, je suis... Là
vous
où
êtes
je
en Corrèze
vois, voilà, je vois les montagnes, je vois le Sancy devant moi, vous voyez,
le
avec
Sancy.
Plein de neige. Oui, je vois les monts du Sancy, voilà.
Bah, vous avez de la chance.
Oui, je
moi, je vois Damien Béchiot.
Oh, il est beau aussi.
C'est une chance aussi, Pascal, non ?
Je suis d'accord avec vous.
Merci,
il est beau.
Pascal.
C'est un beau garçon. Bon, ben merci, Mélanie. Vous faites quoi, Noël ?
Merci. On n'est que 5, nous, voilà, avec ma sœur et mes parents et mon fils.
Et d'habitude, vous êtes combien ?
On n'est que 5, nous aussi. On n'est pas beaucoup. Non, nous, ça ne change pas. Non, ça va.
Bon, ben c'est bien, Mélanie. Merci. Hein. Vraiment merci pour votre joie
de
vivre et votre énergie.
Ouais. Non, toujours la positive attitude. Vous savez bien qu'il faut, Pascal.
Il ne faut pas être trop positif aujourd'hui, si j'ai bien compris.
Parce il faut l'être quand même un peu.
Non, mais je voulais dire quand on est positif, on peut l'être aussi au Covid et c'est pas la bonne chose.
Ah oui.
Mais bon.
C'était une
blague
nette.
Elle était
rigolote, celle-là.
Vraiment, merci.
Merci
Mélanie,
à vous, Pascal.
Merci. Il est 13h58. Greg Caradoni n'est pas là aujourd'hui, mais je n'ai pas vu non plus Cyprien Sini ce soir. Il est là, j'espère.
Oui, il sera là ce soir, ne vous inquiétez pas.
Mais il va être dans la maison qui nous présente quand même son émission.
J'espère.
On défait le monde. Il est avec Stéphane Carpentier.
Oui, tout à fait. S'il nous entend, il va arriver, j'espère.
Ouais, mais Stéphane Carpentier, il n'aime pas venir nous dire bonjour.
On va essayer quand même de le faire venir, Pascal.
À tout de suite, les amis.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et 14h.
Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et on va poursuivre évidemment notre émission. Est-ce qu'on s'est déconfiné trop vite? On est déjà avec Manuel qui est agent SNCF. Manuel, bonjour.
Bonjour. Oui, je confirme un petit peu. C'est vraiment le cas. On a été ou déconfiné trop tôt ou alors il fallait déconfiner tout le monde et sans reposer aucun problème. Ou alors on déconfine personne et on attend la fin des fêtes de fin d'année.
Bah, c'est pas forcément très gai de déconfiner personne, mais on va en reparler dans une seconde puisque pour le moment c'est le flash avec Pierre Collat et on salue Pierre Collat parce que c'est un grand jour. C'est vos premiers flashs, cher Pierre. Allez-y.
Bonjour à tous. Préoccupante, c'est ainsi que Santé publique France qualifie la reprise épidémique. À la veille des vacances de Noël, on observe une nette augmentation des cas de Covid-19 et légèrement plus d'entrées à l'hôpital. L'organisme parle d'une situation inquiétante car avec les vacances s'ouvre une période de congés, de retrouvailles et de rencontres. Il appelle à la prudence. Le Beauvau de la sécurité commencera fin janvier et durera jusqu'au mois de mai. C'est ce que Gérald Darmanin a dit au syndicat de policiers ce matin. Ils étaient réunis au ministère. Le ministre de l'Intérieur explique que cela ressemblera à un grand débat avec des réunions régulières entre Beauvau et les représentants des forces de l'ordre. Les négociations post-Brexit continuent. Dernier épisode en date, un discours de Boris Johnson ce matin. Le Premier ministre britannique parle d'une situation difficile. Il y aura un fossé à combler. Il attend des concessions de Bruxelles et précise que sa porte est ouverte et qu'il veut continuer de discuter. 11 morts et une vingtaine de blessés dans une explosion en Afghanistan. Le drame s'est produit dans la province de Ghazni, à l'est du pays. C'est un tricycle chargé d'explosifs qui aurait explosé. En sport, ce soir, l'équipe de France féminine de handball veut décrocher sa place en finale. Demi-finale de l'Euro, ça se passe au Danemark et c'est à 18h. La météo de votre fin de journée avec de belles éclaircies et même du soleil sur une grande partie du pays. On aura 8 degrés à Belfort et à Dijon, 11 à Nevers, 13 à Rennes. Ça montera jusqu'à 14 à Toulouse, 16 à Saint-Jean-de-Luz et 17 à Ajaccio. Et pour finir les courses, c'était à Vincennes. Elles viennent d'arriver. Arrivée provisoire le 4, le 15, le 13, le 7 et le 14.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Emmanuel sera notre premier auditeur entre 14h et 14h30. Laurent Tessier.
Plus de 18 000 nouveaux cas de contamination de Covid-19 hier. Le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, n'a pas caché son inquiétude.
L'évolution de l'épidémie est préoccupante, avec une tendance à l'augmentation de la circulation du virus à partir d'un plateau haut. Nous constatons en effet une augmentation du nombre de cas confirmés.
Nous sommes loin de l'objectif de passer sous la barre de 5000 cas par jour. La semaine dernière, Jérôme Salomon avait déjà prévenu.
La saison hivernale sera très difficile. Les fêtes de fin d'année font craindre que des contaminations importantes intrafamiliales aient lieu.
Plus de 17 000 cas de contamination mercredi. Des chiffres qui repartent à la hausse, Sophie Jousselin.
Le taux de reproduction vient de repasser significativement au-dessus de 1 dans plusieurs régions. Les Pays de Loire, l'Île-de-France et la Normandie. Ce qui signifie qu'une personne infectée en contamine plus d'une et que l'épidémie repart. D'ailleurs, le nombre de nouvelles hospitalisations ne baisse plus. Même chose pour les réanimations.
Alors quand pourrons-nous reprendre un semblant de vie normale? Le professeur Jean-François Delfrécy était l'invité cette semaine de RTL Soir.
On va le situer, mettons, à l'automne 2021.
Une augmentation en attendant des cas de contamination à moins d'une semaine du réveillon de Noël. Pas de couvre-feu le 24 décembre, mais une recommandation du gouvernement.
Il nous paraît raisonnable de vous recommander une jauge de 6 adultes sans compter les enfants.
Et selon un sondage BVA pour RTL, 3/4 des personnes interrogées sont prêtes à respecter la jauge de 6 adultes, mais 68% refusent de porter un masque avec leurs proches. Alors est-ce bien raisonnable de fêter Noël? Emmanuel Macron aurait-il dû faire la même annonce que le Premier ministre de la province canadienne de Manitoba?
Je suis celui qui va vous voler votre Noël pour vous protéger. Parce que c'est ce que vous devez faire maintenant. Vous n'avez pas besoin de m'aimer. J'espère que d'ici quelques années, vous pourrez me respecter pour avoir eu le courage de vous dire la vérité.
Une étude de l'Institut Pasteur montre que le virus se diffuse majoritairement lors des partages de repas en famille, entre amis ou au travail. Alors, fallait-il annuler Noël? Quel est le conseil du professeur Arnaud Fontanet pour les 24 et 25 décembre?
Il faudra justement être extrêmement prudent.
Quelles recommandations nous donne Emmanuel Macron?
Veillons à ne pas être trop nombreux à table.
Ah oui, a-t-on déconfiné trop vite? Risque-t-on une troisième vague en janvier? Avec nous en studio, le professeur Bruno Mégarban, chef du service de réanimation médicale et toxicologique à l'hôpital Lariboisière à Paris.
Et je le salue, monsieur Mégarban. Bonjour. jour, j'ai l'impression, et on le dit souvent, d'être dans ce film avec Bill Murray, Un jour sans fin, de poser tous les jours les mêmes questions, de recevoir souvent les mêmes personnes et de parler d'après la première vague, de deuxième vague, maintenant de troisième vague. Vous pensez par exemple que le confinement, le reconfinement est inévitable ?
On va dire non, rien n'est inévitable. Effectivement, il faut tout faire pour l'éviter. Alors aujourd'hui, nous sommes sur une situation de plateau, un peu vers le haut. Le risque vient évidemment des fêtes de fin d'année, avec une augmentation du brassage de la population, des rassemblements. Mais si tout le monde fait attention et respecte les mesures barrières, en théorie, il n'y a pas de raison que l'on assiste à un rebond épidémique. Malheureusement, on peut craindre qu'effectivement ces mesures ne soient pas respectées par une grosse majorité de la population, et donc effectivement nous craignons, c'est pour ça, une augmentation des cas d'admission à l'hôpital à partir de la mi-janvier.
Manuel est avec nous, donc Manuel
rebonjour,
et vous trouviez qu'on a déconfiné trop vite, Manuel, pourquoi ?
Mais parce que tout simplement que le français n'est pas respectueux. Mais loin de là, il n'est pas respectueux du tout, parce que là encore, je viens je sors de la boulangerie, alors c'est une chaîne, mais il y avait 25 personnes dans la boulangerie. Il n'y avait aucun respect des distanciations sociales. Et je m'en suis pris aux employés, parce qu'il n'y a personne qui venait vers les clients pour dire non, vous êtes trop nombreux, non, parce que d'eux-mêmes, ils ne faisaient pas.
Donc, mais les gens étaient masqués ?
Oui, masqués pour tous, mais vous savez très bien...
Mais il n'y avait pas de distanciation, il n'y avait que ça qui clochait, si j'ose dire.
Aucune, moi j'étais poussé dans le dos, je me suis retourné, et j'avais quelqu'un qui était juste derrière moi.
Et qu'est-ce que vous avez fait ?
Eh bien, j'ai demandé à la personne de se reculer, déjà par le regard, bien compris qu'elle était un peu trop proche. Et après, quand j'étais un peu véhément vis-à-vis des employés qui, eux, ne faisaient rien, eh bien, après, je suis sorti.
Mais et c'est la première fois que vous veniez dans cette boulangerie ?
Oui, tout à fait. Et j'aurais bien signifié que c'était bien la dernière fois, de toute manière. Mais par rapport à ce que disait votre intervenant tout à l'heure, dans la théorie, oui, dans la théorie, on aurait dû avoir un fléchissement des taux de contamination. Mais vu le comportement des gens, c'est impossible. Et bon. Après, derrière, ces gens-là vont aller se faire tester pour savoir s'ils sont positifs ou pas.
Bon, Manuel, restez avec nous. On marque une pause. Moi, j'ai le sentiment contraire de vous. Je trouve qu'au contraire, les Français sont disciplinés et même ils sont résilients et qu'ils acceptent tout et même plutôt bien cette période-là. Donc, vous voyez, on n'est pas tout à fait d'accord. Après, il y a peut-être des exemples, hein, comme celui que vous venez de citer. Mais ce qui me frappe dans cette séquence depuis maintenant le mois de mars, c'est qu'au contraire... par exemple, tous les gens que nous avons au téléphone depuis 15 jours, je leur pose la question à Noël et ils me disent « on sera 5, 6, on va pas faire le même Noël que l'an passé », etc. Ils ont bien pris conscience qu'il y a du danger. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Bon, Manuel, qui s'est fâché avec son boulanger. Vous ne reviendrez plus alors dans cette boulangerie, manifestement.
Non,
mais moi, ce qui m'intéresse, parce que c'est toujours délicat, quand je suis comme vous dans un endroit, avec quelqu'un qui ne respecte pas les gestes barrières, c'est délicat de dire quelque chose quand même. Donc vous avez, entre guillemets, le culot de dire « respectez les gestes barrières » ou « faites ce qu'il faut faire ». Mais c'est toujours ça qui est délicat, je trouve, à dire ou à faire. Je ne sais pas ce qu'en pense M. Magarban, d'ailleurs, mais c'est délicat quand même d'être dans une boulangerie. Vous avez interpellé manifestement ceux qui servaient.
Je me préserve moi, mais si je me préserve moi, je préserve les autres aussi.
Oui, j'entends bien, mais c'est quand même délicat.
Non, je trouve pas, parce que ce sont les mêmes personnes qui vont aller dépenser l'argent public pour aller se faire tester,
oui,
pour savoir s'ils sont positifs ou pas, et après finir leurs achats de Noël et aller dans leur famille. Je sais pas, on marche sur la tête par moment.
Bon, en tout cas, M. Magarban est avec nous. Je rappelle que vous êtes chef du service de réanimation. Est-ce qu'on a eu raison de déconfiner le 15 décembre ?
Alors, je dirais, en théorie, pour qu'un confinement soit efficace, il faut d'abord qu'il ait été mis en place pas trop tardivement, donc dès la prémisse de l'augmentation des contaminations. Deuxièmement, qu'il dure relativement suffisamment pour permettre une baisse suffisante du taux de circulation du virus afin d'être tranquille pendant un certain temps. Donc on va dire ici, il a été probablement un tout petit peu mis avec retard, puisqu'en fait il a fallu qu'on attende ce fameux pic massif jusqu'à 50-60 000 contaminations pour s'en préoccuper. Il a duré peut-être un peu de façon un peu trop courte.
Un mois et demi.
Voilà. Néanmoins, effectivement,
rien, non,
dans la décision de la durée du
confinement.
Et puis
c'était un confinement light par rapport à celui du printemps.
Alors ça, par contre, effectivement, les mesures, on va dire, le degré d'importance du confinement joue moins. Sur le résultat final. Effectivement, quand on compare lors du premier pic épidémique les différents pays entre eux, on voit que ce n'est pas tellement la dureté des mesures qui compte, mais la précocité de la décision et le maintien dans le temps. Si on lève trop tôt, comme aux États-Unis au cours du premier pic, immédiatement on a un rebond.
Alors, en ce moment, là, on est en train de partir. On va être à 18 000. Vous savez à combien on sera peut-être vendredi prochain ?
Alors, à mon avis, ça ne va pas beaucoup augmenter avant les fêtes, mais ça risque d'augmenter beaucoup plus franchement après les fêtes.
Ça, vous êtes certain que jusqu'au...
Non, je suis certain de rien, mais...
Jusqu'au 31 janvier, à votre avis, le pari que vous faites, non, c'est qu'on reste à 20 000
Jusqu'au 24, je crois que ça va monter très peu. Mais à partir du 24, donc dans la semaine entre les fêtes de Noël et le Nouvel An, ça va augmenter. Et puis malheureusement, après le Nouvel An, parce que tout le monde sait que les gens ne respecteront probablement pas aussi précisément le couvre-feu, ça va augmenter.
Parce que les jeunes, peut-être pas, mais les personnes, les adultes...
Mais c'est ça le problème, c'est-à-dire que, effectivement, les personnes qui ont compris la gravité de l'épidémie respecteront les consignes. Malheureusement, ce sont les autres qui ne le feront pas et qui, après les fêtes, transmettront le virus aux générations plus âgées, à leurs parents, à leurs grands-parents. C'est ça le danger.
Marie-Christine est là, qui habite Lille, et je remercie évidemment Manuel, et qui va trouver une autre boulangerie sans doute. Marie-Christine, bonjour.
Bonjour Pascal.
Merci d'être
avec
nous.
Alors moi, effectivement, j'habite à Lille. Je viens d'entendre notre interlocuteur, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de contamination, mais si on fait aussi énormément de tests, on parle toujours d'un nombre de contaminations par jour, mais on ne nous dit pas sur combien de tests il y a eu.
Oui, alors ça, vous avez parfaitement raison. On ne sait pas si le nombre de contaminations est lié parce qu'il y a plus de tests. Et c'est mécanique, à ce moment-là, il y en aurait plus. Vous avez parfaitement raison. Il faudrait peut-être un pourcentage.
Alors... Voilà, il faudrait quand même nous dire... par exemple, 18 000 contaminations sur combien de tests effectués ?
Alors, vous avez raison,
parce
madame.
Que moi, j'ai mes enfants qui se sont fait tester trois fois négatifs.
Alors, en fait, vous avez raison, madame. Quand on regarde un chiffre de façon isolée, effectivement, il est important de connaître le dénominateur. C'est-à-dire combien de tests sont positifs sur combien de personnes testées. Mais ce qui compte, en fait, c'est la vitesse d'augmentation des chiffres. Et donc, effectivement, sur une période donnée de 15 jours, 3 semaines, il y a très peu de variations en valeur absolue du nombre de personnes testées. Et c'est la vitesse de progression qui compte. Et à ce moment-là, elle est indépendante du nombre de personnes testées. Et elle peut être fiable pour mesurer l'expansion de l'épidémie.
Bon, Marie-Christine, est-ce que vous trouvez qu'on a déconfiné trop vite, puisque c'est notre question du jour ?
Alors, absolument pas. Moi, je suis contre le confinement total. Je trouve que faire un couvre-feu de 20h à 6h, c'est parfait. Le confinement total, pour quelqu'un qui vit dans un petit appartement de 15 mètres carrés à Paris, moi, j'ai ma fille qui avait loué un appartement, un studio meublé qui faisait 12 mètres carrés. Je suis désolée, quand vous restez confinés là-dedans, les jeunes deviennent complètement malades, deviennent stressés, dépressifs, il y a des suicides, il y a un tas de choses qui se passent, on n'en parle pas.
On en parle pas mal, notamment des étudiants, mais vous avez raison,
les
dégâts collatéraux.
Impactés.
Mais vous avez raison, évidemment, oui. Vous avez raison, Marie-Christine. Et,
les jeunes sont très, très impactés.
Bien sûr,
alors,
bien
je suis
sûr,
d'accord
bien
de
sûr.
Protéger les personnes âgées. Moi, j'ai 64 ans. Moi, je dis à mes enfants, on se fait plus de bisous. C'est tout. Donc, effectivement, plus de bisous avec les enfants, les petits-enfants. Mais je ne m'interdis pas d'aller voir mes petits-enfants, d'aller voir ma petite-fille à Annecy, de voir mon autre petite-fille tous les mardis soirs, elle vient dormir à la maison. C'est pas pour autant qu'elle m'a infectée, on fait attention.
Mais vous l'embrassez
pas. On n'embrasse pas, on fait attention, on prend nos distances quand on parle, elle a 10 ans. Et la plus petite a 2 ans et demi.
Bon, ben merci Marie-Christine. On marque une pause et il restera une dizaine de minutes avant Flavie Flamand. Si vous avez des questions à poser à Monsieur Mégarban, chef du service de réanimation, on meurt moins en réanimation. Nous sommes d'accord. Aujourd'hui, on soigne mieux, on traite mieux.
Alors, on va dire à gravité identique, effectivement, on soigne un peu mieux. On sait mieux adapter les moyens de prise en charge, notamment symptomatiques. Et en plus, on donne systématiquement la dexaméthasone, qui est un dérivé de la cortisone, qui permet, comme traitement anti-inflammatoire, d'éviter l'emballement de la pneumonie.
À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Petit mot sur le vaccin avec Bruno Mégarban. Ce vaccin, par définition, il immunisera. Autrement, ce ne serait pas un vaccin. Mais est-ce qu'on sait s'il empêchera de transmettre la maladie ?
Alors, vous avez raison. Donc, au jour d'aujourd'hui, on ne sait, basé sur les études de phase 3, que les vaccins qui sont donc en train d'être utilisés, notamment à base d'ARN messager, protège contre la forme grave de l'infection. C'est-à-dire, en fait, une personne qui est vaccinée ne fera pas d'infection et surtout ne fera pas d'infection grave. À l'inverse, on ne sait pas si elle ne sera pas capable d'être malgré tout porteuse du virus et d'autres d'être contagieuse. Car effectivement, l'immunité protège surtout, on va dire, le milieu intérieur, l'intérieur du corps. Maintenant, effectivement, le virus pourrait tout à fait se retrouver à l'entrée du corps, c'est-à-dire au niveau du nez et de la gorge, s'y multiplier, mais être incapable de croître et de créer des lésions à l'intérieur du corps. Par contre, le sujet restera contaminant. Et donc ça, on ne saura que probablement vers la fin du printemps. Une fois qu'une proportion très importante de la population a été contaminée, on verra à ce moment-là si, effectivement, il y a une baisse ou pas du taux de nouveaux cas de contamination.
C'est ça peut-être que certains ont appris, c'est-à-dire que vous avez un vaccin, vous pouvez imaginer que le vaccin, il empêche complètement le virus d'entrer. Donc la question ne se posait pas de savoir si on était contaminant ou pas, parce qu'il n'entrait pas du tout. Il entre. Mais en fait, il n'entre pas à l'intérieur.
Exactement.
Donc, il ne provoque pas une forme grave. Mais en revanche, vous pouvez peut-être transmettre.
Voilà. D'ailleurs, c'est le cas de tous les vaccins des infections respiratoires. La grippe.
Même la grippe.
Tout à fait. On peut tout à fait porteur de la grippe sans faire de forme grave. D'ailleurs, même on pourrait faire même la grippe en étant vacciné par la grippe.
Emmanuel est là. Emmanuel, qui est hôtelier, je crois, en Italie, c'est bien ça, Emmanuel ?
Oui. Bonjour. Oui, 2000 ans. Oui.
2000 ans. Bon, comment ça se passe chez vous ? Vous êtes fermé ?
Oui, toujours la même situation. On avait parlé, je ne sais pas si vous vous rappelez, à peu près il y a plus d'un mois. Et si la situation est... Comme je vous avais dit, les hôtels vraiment ne sont pas fermés en Italie, mais on est obligé de fermer du fait qu'on ne peut pas passer d'une commune à une autre, donc on est très limité.
Bon, vous vous faites vacciner déjà ?
Non. Je crois
comme
que
toute l'Europe, vous attendez ?
Voilà. L'Italie avait acheté des vaccins avec Astra et Zeneca. Et bon, après Pfizer est venu en milieu. C'est pas trop bien. Entre un problème de logistique, parce que les conservations des vaccins ne sont pas tous les mêmes, donc il y a un peu de problème de ce côté-là, quoi.
C'est toujours bien d'avoir parfois des auditeurs à l'étranger. Est-ce que les restaurants sont ouverts en Italie à Milan ?
Alors, c'est-à-dire que l'Italie, comme je disais à votre standardiste, était divisée en 3 couleurs, rouge, orange et jaune. L'Italie, la Lombardie, bien sûr, c'est une région qui a été le plus touchée, on était rouge, après on est passé en orange, maintenant en jaune, c'est-à-dire que tout est ouvert, mais dans les prochaines 48 heures, il est fort possible que le gouvernement referme tout, du fait que, point de vue contamination, on est aux mêmes lignes qu'en France, c'est-à-dire 18 000 personnes par jour à peu près, quoi.
Donc, les restaurants sont fermés dans les zones rouges, bien sûr, en Lombardie, c'est fermé.
Mais maintenant, l'Italie est toute en zone jaune, non ? Je crois que ça a été fait pour favoriser aussi le...
Mais à Milan, les restaurants sont ouverts ou sont fermés ?
Ils sont ouverts jusqu'à le soir, jusqu'à 18h.
D'accord. Les hôtels, sont parfois ouverts ?
Quelques-uns, mais vraiment très peu, du fait que vous ne pouvez pas voyager en ce moment. Donc,
Les commerces ?
Les commerces sont ouverts, oui, jusqu'à à peu près 8h.
Et les théâtres, est-ce que la Scala de Milan est ouverte ?
Non, elle est fermée.
D'accord. Théâtre, cinéma, c'est fermé ?
C'est fermé. Le stade aussi, bien sûr.
Donc, par rapport à la France, il n'y a qu'une différence, c'est les restaurants ouverts jusqu'à 18h, dites-vous.
18h, exactement.
Ouais. Et les bars ?
Pardon ?
Et les bars, cafés ?
Les bars sont ouverts, oui. Quand on était en zone rouge et en zone orange, ils pouvaient travailler, mais simplement pour take away, c'est-à-dire pour emporter, quoi.
Et malgré les contaminations en hausse, il n'y a pas eu de changement. Les bars et les restaurants restent ouverts. Jusqu'à 18
ans. Les bars, restaurants, oui, mais bien sûr, la même situation est un peu comme en France. Je crois que c'est surtout du fait des gouvernements qui sont pas même peut-être pas un peu capables, mais je veux dire, ils n'arrivent pas à prendre des décisions. Je crois que dans tous les pays pareil. Je crois que tous les citoyens de chaque pays font leurs efforts. Nous, dans les restaurants, dans les bars, dans les hôtels, on a pris des précautions de plastique, de plexiglas pour séparer tout ça. Bon, mais maintenant, on se retrouve fermé, quoi.
Ouais. Merci Emmanuel de ce témoignage en direct de Milan. Comme il nous reste quelques secondes, Monsieur Mégarban, à votre avis, les restaurants rouvriront quand en France ?
Alors, je dirais, si effectivement il n'y a aucun rebond épidémique en janvier, que la situation finalement est la même sur un plateau relativement chronique, il se peut que le calendrier prévu par le ministre de la Santé soit maintenu. Maintenant, effectivement, la crainte, c'est qu'il y ait un rebond. Et donc, à ce moment-là, effectivement, s'il y a bien un rebond, notamment avec des répercussions sur l'hôpital, j'ai peur que la décision d'ouverture soit reportée à la mi-mars.
Merci beaucoup, en tout cas, et j'allais dire bonne fête de fin d'année. Merci de nous renseigner avec clarté et pédagogie. Ce sera Flavie Flamand dans une seconde et Laurent Tessier pour conclure l'émission.